Code économique.
Il faut installer des usines de transformation du maïs, aménager les routes pour en assurer l'évacuation et soulager les agriculteurs de Arou en Ituri. C'est la proposition du directeur général de l'entreprise Ujama Holding comme voie de sortie durable à cette problématique de carence récurrente du maïs. Il fait allusion à des tonnes de maïs bloquées dans cette région. Les premières expéditions du café de la forêt de Mayombe de Congo central vers Dubaï. L'ONAPAC a lancé cette campagne depuis le week-end dernier. Le café Petit Quilou est de la famille du café Robusta et c'est une espèce unique qu'on ne peut retrouver qu'en RDC. L'économie politique de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023. Nous en parlons avec le professeur Isaac Kalonta Kanyama. Il est l'invité de Écho d'économie. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le marché de change en ce début de semaine pour ouvrir ce numéro Écho d'économie. Le taux de change dollar américain franc congolais de la Banque centrale du Congo actualisé ce 27 mai renseigne 2739,06 francs congolais pour 1 dollar américain à l'achat, 2850,86 francs congolais pour 1 dollar américain à la vente et sur le marché parallèle, il faut compter entre 2810 et 2820 francs congolais pour 1 dollar américain à l'achat et autour de 2860 ou 2870 francs congolais pour 1 dollar américain à la vente. Autre chose, il faut installer une usine de transformation de maïs et aménager les routes de desserte pour leur évacuation. Ceci pourrait soulager les agriculteurs de Arou en Ituri et promouvoir ainsi l'agriculture dans cette région. Ceci au lieu d'importer 200 000 tonnes de farine de maïs de la Tanzanie pour nourrir quelques Congolais pendant une certaine période. C'est ce que propose le directeur général de l'entreprise Ujama Holding comme voie de sortie durable à cette problématique de carence récurrente du maïs. Ujama Holding est l'entreprise qui évolue dans la promotion du secteur agricole dans la province du Nord Kivu. Écoutons les explications de Gédéon Mouitoere au micro de Denise Lukeso.
C'est simple, si le gouvernement met à la disposition de ses agriculteurs à Arou une usine de transformation, ce qui est simple à faire et moins coûteuse, et que ces agriculteurs transforment ces 150 000 tonnes de maïs qui sont en cours de pourriture, ça c'est simple à faire. Ou soit, s'il y a un souci, par exemple pour les routes et les dessertes agricoles, avec les ressources, c'est possible d'aménager ces routes pour que ces maïs ou cette farine proviennent à un endroit où l'usine peut vivre pour faciliter la transformation. C'est à travers ça que je lance cet appel, que ça soit vraiment en faveur de ces agriculteurs et non faire bénéficier d'autres pays pour cette commande de 200 000 tonnes. Et là, ça va promouvoir tous les secteurs agricoles et agriculteurs de Arou. Et vous allez voir que ça va leur booster davantage parce que ça va déjà accomplir une chaîne de valeur, c'est-à-dire après l'agriculture, la récolte, les agriculteurs sont capables maintenant de transformer ce qui est une innovation agricole.
L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, organise depuis la forêt de Mayombe, un territoire de Lukula, c'est dans la province du Congo central, les premières exportations du café Petit Quilou vers Dubaï. La directrice générale de l'ONAPAC, qui a ouvert cette campagne vendredi dernier, explique que le café Petit Quilou est de la famille Robusta, café à petits grains cultivé exclusivement en République démocratique du Congo et spécialement dans la forêt du Mayombe au Congo central. Mimi Numbi appelle les Congolais à prendre soin de cette culture car ces importations ouvrent pour la RDC la voie sur les marchés internationaux des produits pérennes. Écoutons Mimi Numbi au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Il faut souligner que le café Petit Quilou, c'est un petit café à petits grains de la famille Robusta qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo et spécialement dans le Congo central. et précisément à Lukula dans les Mayombe.
Je voulais ajouter aussi, madame, et c'est très important, que le Petit Kouilou est un café qui s'est déjà dégusté dans plusieurs salons internationaux à plus de 70% vis-à-vis de ses pairs Robusta. C'est un café extraordinaire. Quand vous le mélangez avec l'Arabica et le Robusta, ce petit café rehausse les goûts. C'est une carte postale pour la République démocratique du Congo qui doit être protégée par les Congolais, car cette espèce, j'insiste encore, ne se retrouve qu'en RDC, spécialement dans la forêt du Mayombe à Lukula.
Puis parlons de cette mise au point de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, la RESPE. Ceci après que la Gécamines s'est opposée à la recommandation d'une vingtaine d'entreprises sous-traitantes par la RESPE à Tenke Fungurum Mining. La RESPE rappelle à l'ordre les autorités de la Gécamines sur ce qu'elle qualifie d'exclusivité de ses prérogatives légales sur la sous-traitance et le développement du contenu local. Cette réaction est contenue dans une correspondance rendue publique ce lundi. Cynthia Bachizi l'a lu et nous en donne le condensé.
C'est la réponse du berger à la bergère dans cette correspondance adressée au directeur de la Gécamines. Le numéro 1 de la RSP précise que la Gécamines est une société commerciale œuvrant dans le secteur minier. Elle a pour but la prospection, la recherche et l'exploitation des gisements miniers. Et de ces faits, la Gécamines n'a pas de prérogatives particulières pour gérer les activités de la sous-traitance, explique Miguel Cachal-Katimbe. C'est ainsi qu'il demande à la Gécamines d'éviter de bloquer la réalisation de la vision du chef de l'État, qui est celle de promouvoir l'accès des entrepreneurs congolais au marché jadis occupé par des entreprises sous-traitantes non éligibles. Pour rappel, dans une lettre signée entre autres par le directeur général de la Gécamines et adressée au président du groupe CEMOC, géant mondial du cuivre, qui détient Tenke Fungurume Mining, la Gécamines reprochait à l'ARSP de s'arroger de ses charges d'actionnaire dans TFM, conséquence la société minière publique dit ignorer le contenu des entendements convenus entre l'ARSP et TFM. Le protocole d'accord signé entre la Gécamines et Tenke Fungurume Mining ne peut être opposé à l'ARSP, explique Miguel Cachal-Katimbe.
Écho d'économie.
L'économie politique de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023, c'est le thème de la conférence débat que le professeur Kalonda Kanyama a animé la semaine dernière à Kindu. Et c'est lui, le professeur, qui est l'invité de l'économie pour nous en dire plus. Le professeur Isaac Kalonda Kanyama s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Isaac Kalonda Kanyama, bonjour.
Bonjour.
Dans une conférence débat, vous parlez de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023. Professeur, c'est quoi l'objectif et quel est le gouvernement selon vous qui a connu une faible performance économique?
Mes objectifs, c'était de voir les régimes politiques et les gouvernements et les performances en termes de contribution à la croissance économique. Pratiquement, j'ai calculé l'effet net de l'intervention ou des politiques économiques menées par les différents gouvernements. Sur les 8 gouvernements pratiquement de la Troisième République, il y a un gouvernement qui est ressorti avec une performance négative, c'est l'avant-dernier gouvernement de la République. Quand je dis avant-dernier gouvernement, je ne compte pas les gouvernements qui viennent d'être nommés, qui n'ont encore pas travaillé pour qu'on puisse juger sa performance économique.
Et cela a été dit à quoi?
Bon, je crois que c'est au niveau des politiques, des effets dominants, de quelle politique économique a eu un effet dominant. Parce que dans la Troisième République, il y a eu 3 politiques économiques qui ont eu un effet sur la croissance économique. Notamment, il y a la politique d'accumulation du capital qui a eu un effet positif, alors que la politique monétaire et la politique des prix, si je parle des prix liés au secteur de production, ces 2 politiques ont eu un effet négatif. Donc, c'est-à-dire les 2 politiques qui ont eu un effet négatif, l'effet négatif a été plus dominant que l'effet positif de la politique d'accumulation du capital. Je crois que c'est ça la raison principale de cette performance négative.
A contrario, monsieur le professeur, quel est alors ce gouvernement depuis la Première République jusqu'à la Dernière République qui a connu une performance économique?
Bon, les constats d'abord, c'est que chaque gouvernement qui est passé a une meilleure performance que les gouvernements qui ont suivi. Sauf bien sûr le dernier gouvernement qui a eu une performance meilleure que le gouvernement qui l'avait précédé. Donc, si nous partons déjà à partir du gouvernement de l'Union nationale, donc ce gouvernement a une performance positive. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le gouvernement qui est venu après ce gouvernement-là, donc après les élections de 2005, a une meilleure performance en termes des impacts sur la croissance économique.
Vous avez constaté que chaque fois qu'il y a l'arrivée d'un gouvernement, on ne tient pas compte des acquis du gouvernement précédent. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous donnerez comme conseil?
Bon, le conseil, c'est que les hommes passent et les institutions restent. Et il faut que les dirigeants intériorisent cela. On ne va pas, quand on vient à un poste de responsabilité publique, balayer tout ce qui a été fait avant. Il y a toujours des effets, des aspects positifs sur lesquels on peut construire. Et c'est ça les conseils que doit être intériorisé par tous les dirigeants. C'est que quand vous venez à un poste, il faut toujours chercher quels sont les acquis qu'il faut pérenniser au lieu de me faire table rase, quoi.
Après avoir eu une idée sur la croissance économique du pays depuis son indépendance jusqu'à maintenant, et si on vous recrutait comme consultant pays, quels sont les problèmes auxquels vous vous attaquerez en premier?
Bon, le premier problème auquel je m'attaquerai, c'est d'abord de résoudre les problèmes de la faiblesse de la capacité productive de l'économie. Et les études que j'ai faites, bien sûr, je n'ai pas fait un modèle de croissance élargi à d'autres facteurs, mais celui que j'ai exploité montre que la politique d'accumulation du capital est une politique qui a contribué positivement à la croissance économique. Et s'il y a des actions à mener prioritairement, c'est dans ces secteurs-là de l'accumulation du capital, capital productif, pour y compris les infrastructures, les équipements, pour augmenter la capacité productive du pays. À cela, il faut diversifier les pays, il faut des industries de transformation, les routes, les chemins de fer et toutes les infrastructures qui sont bonnes pour la croissance économique.
Mais professeur, il y a toujours cette question d'inégalité en termes des salaires. Il y a ceux qui touchent plus et ceux qui touchent moins. Et si on rationalisait la paix des institutions, combien les pays gagneraient en termes d'investissement?
Bon, les pays gagneraient beaucoup parce que le salaire faramineux pour une petite catégorie de la population ne fait que renforcer l'inégalité des revenus, qui est d'abord très élevée parce qu'en 2022, le coefficient Gini était de 44,7. C'est déjà beaucoup. Et quand on doit encore donner à une certaine catégorie de personnes un salaire très élevé, cela ne fait que creuser la distance les inégalités entre la majorité de la population et une petite proportion de la population. Il est certes vrai qu'avec ce qui est prévu d'être payé, le pays peut bénéficier beaucoup en termes d'infrastructures parce que, d'après mes calculs, si on peut réduire la consommation ou les salaires de ces personnes qui ont un salaire très élevé à environ 10 000, on peut construire par an au moins 1 000 km de route et ça viendrait renforcer la capacité productive du pays au lieu de renforcer les inégalités. Donc ça, c'est un problème de choix, un problème d'arbitrage. Et si on veut développer les pays, il faut prendre les décisions qu'il faut pour y parvenir.
Professeur Isaac Kalunda Kanyama, merci.
C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.
Merci professeur Isaac, merci Florence Kizalunga et grand merci à vous chers auditeurs. Éco d'économie se referme. Merci de l'avoir écouté.